Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tout est matière, en fait. Tout est matière à transformation. Et moi, j'ai travaillé, ouais, c'est vrai, dans le film, sur le transgénérationnel, pour le, voilà, pour en faire quelque chose dont aujourd'hui, je peux le regarder en face, mais ne plus le porter.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss.
Je m'appelle Laurent Bazar et nous sommes passionnés par la créativité que nous considérons comme une quête holistique.
Loin des images d'épinal fantasmées, nous questionnons l'être humain derrière les artistes que nous admirons.
Pour en savoir plus, vous pouvez nous suivre sur Instagram @senscreatif-podcast et si Sens Créatif vous plaît, vous pouvez aussi rejoindre le Patate Club en soutenant financièrement le podcast sur Patreon.
Ça se passe sur www.patreon.com/senscreatifpodcast. Cela vous donne accès à des tonnes de bonus et votre participation nous aide vraiment à continuer à produire ce podcast. Et avant de passer à l'épisode du jour, nous remercions Patreon, sponsor officiel de cette saison 4. Comme eux, on croit dur comme fer qu'il importe de remettre les artistes au milieu de leur production et de leur permettre de gagner leur vie sans être obligés de passer par des tas d'intermédiaires.
Et c'est exactement la mission que s'est donnée Patreon, permettre aux artistes de travailler sur ce qu'ils aiment et être payés en retour par les gens qui aiment leur travail. Alors comment ça marche ?
C'est très simple. Rendez-vous sur la plateforme patreon.com, créez un compte et commencez à fédérer votre communauté en leur proposant différents paliers pour vous soutenir financièrement en échange de contrepartie. Vous pouvez par exemple leur proposer des tutos exclusifs, des épisodes bonus de votre podcast, un accès à des rencontres ou un Discord privé. À vous d'être créatif.
Donc si vous êtes artiste et que vous savez pertinemment que votre travail touche une certaine audience, mais que vous vous demandez comment monétiser votre contenu, peut-être que Patreon est la solution pour vous.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur patreon.com ou cliquez sur le lien dans les notes de cet épisode.
Et sans plus attendre, voici l'épisode du jour.
Bonjour Romy. Bienvenue sur Sens Créatif. On est très très content de te recevoir aujourd'hui. C'est pas souvent qu'on reçoit une réalisatrice de film sur le podcast, mais dès que tu m'as écrit pour me parler de ton film, sans même avoir vu le film, je te le disais en off, bah, je savais que je voulais t'inviter ici parce que les thématiques que tu abordes dans ce projet, à savoir le transgénérationnel, l'histoire du divorce de tes parents, la quête initiatique sous forme de film documentaire, le côté totalement do it yourself et puis sans oublier le fait que tu es belge, ça, c'en était trop et il fallait que tu passes sur Sens Créatif.
Ah, tu coches beaucoup de cases pour Jérémy.
Tout ça. Ah oui, totalement. Donc, bienvenue Romy, comment vas-tu ?
Merci Jérémy pour ton introduction. Eh bien, écoute, ça va. Et puis, je te remercie. C'est vrai que je savais même pas que tu étais belge, en fait. Donc, du coup, j'étais...
Eh oui, les Belges, on se sait.
Voilà.
Petite musique d'ambiance.
J'ai un fixe depuis peu. Il ne sonne jamais.
Et bah voilà.
Ah ouais. Un fixe, genre comme dans les années 2000, quoi. Alors, Romy, pour commencer, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux brièvement te présenter et puis nous dire ce qui te motive à sortir du lit le matin ?
Donc, je suis Romy Trajman, je suis née à Bruxelles, j'ai 27 ans et en fait, j'ai commencé par la chanson. Quand j'avais 14 ans, j'ai chanté dans une chanson qui s'appelait « Moi, je te dis lol », qui était un petit clip en fait assez adolescent, une chanson assez pop sur le mot lol. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment plongé dans l'artistique, c'est-à-dire que j'ai étudié par correspondance pour faire des cours de théâtre, de musique. Et donc, j'ai étudié par correspondance jusqu'à mon bac. Après mon bac, donc j'ai grandi en France, malgré que je sois née en Belgique, à Bruxelles. J'ai vraiment grandi en France, c'est dû au divorce de mes parents. On en parlera sûrement après. Et ensuite, j'ai intégré une année de comédie musicale, en fait, à partir de mes 19 ans. Et puis, il y a quelque chose qui me manquait vraiment dans le fait juste de chanter ou d'interpréter des personnages. Moi, mon premier amour, ce sont les mots. C'est les mots qui m'ont guidée vers la musique et puis le cinéma. Et ça me manquait de ne pas pouvoir écrire, en fait, mes propres histoires. Et donc, j'ai candidaté à une école qui s'appelle l'école de Luc Besson de la Cité. En scénario, j'ai pu intégrer cette école, donc ça a duré deux ans. Ensuite, à partir de ça, j'en suis sortie, donc diplômée d'un scénariste, et j'ai fait un documentaire qui, pour le coup, n'a pas une fonction, enfin, qui ne suit pas exactement ce qu'on m'a appris, mais comme l'adage le dit, je crois qu'il faut apprendre aussi les codes pour les désapprendre, et j'ai eu l'impression d'avoir fait ça avec mon premier film, où finalement le scénario s'est vraiment écrit au montage, plutôt qu'à l'écriture.
C'était bonne fête maman, c'est ça, hein, ton court-métrage.
Alors, je parlais vraiment du divorce de mes parents. C'est vrai que j'ai skippé.
Ah oui,
j'ai...
d'accord.
Oui, t'as raison. Et c'est vrai que tu me le dis, j'avais fait un court-métrage qui s'appelait Bonne fête maman et qui parlait de d'une femme monoparentale en fait qui volait en fait dans un magasin le jour de la fête des mères. Et déjà là,
je l'ai vu. Hein. J'ai été le chercher sur Dailymotion. Oui, je l'ai vu. Je me suis vu les Lolis. J'ai vu la chanson Moi, je te dis LOL. J'ai tout été voir avant de préparer cette interview.
Ça, c'est ce que tu racontes avec ton frère quand vous allez dans les magasins récupérer des butins, c'est ça, en fait?
Bah oui, en fait, c'était clairement inspiré d'un épisode personnel. Ouais. Mais sauf que là, c'était l'histoire d'une mère monoparentale. Je jouais la mère,
oui,
en fait.
Oui, jouais toi, ouais. C'est ça. Voilà. Et évidemment, on va en venir au sujet du film. Hein. C'est vraiment le gros de notre conversation aujourd'hui. Mais on aime bien un petit peu revenir en arrière, tu sais, parce que ça inscrit aussi un peu le contexte de ton film et de ton histoire. On va en parler, évidemment, en long, en large, en travers aujourd'hui. Mais est-ce que, avant d'en arriver au film, etc., tu pourrais nous présenter un petit peu ton arrière-plan personnel, genre dans quel type de famille tu as grandi, en fait?
D'ailleurs, je précise un petit truc, Jérémy, en fait, le hasard du calendrier fait que c'est Rosh Hashanah en ce moment, le nouvel an juif. Donc voilà, après, voilà, j'ai lancé un petit peu le tremplin, mais vas-y, Romy, si tu peux vraiment nous raconter un petit peu en quoi ressemble.
Faut voilà. Que tu en dises un peu plus, là, parce que les auditeurs, pourquoi est-ce que Laurent, il dit ça? Non, vas-y, Romy, on te renvoie la balle.
Très délicat. Non, c'est vrai. En fait, je suis née donc à Bruxelles, dans une famille, en effet, de confession juive, plutôt ashkénaze, donc ça veut dire des pays de l'Est. C'était donc la Pologne, la République tchèque et la Russie aussi. Et du côté de ma mère, il y a aussi des autres origines, notamment la Turquie. Voilà, donc c'est vrai que c'est marrant parce qu'en France, je sais que les communautés sont plutôt du Moyen-Orient ici, en tout cas.
Oui. Ouais.
Et en Belgique, c'est à l'inverse. C'est plutôt les pays de l'Est qui sont plus représentés, en tout cas, j'ai l'impression, dans les communautés juives. Donc voilà, j'ai grandi dans un milieu qui n'est pas forcément religieux. Je dirais que c'est un milieu... Enfin, mes parents... viennent d'écoles traditionnelles, ils sont plutôt religieux, mais après, moi, j'ai, enfin voilà, c'est pas du tout un parcours que j'ai eu. J'ai quitté l'école, enfin le Bruxelles quand j'avais 6 ans, ce qui fait que j'ai plutôt grandi dans un milieu assez éclectique et je revendique, à mon sens, enfin moi, l'entre-soi, c'est quelque chose qui j'aime la pluralité. J'ai toujours navigué à travers plein de différentes origines, différents milieux sociaux aussi. Et c'est ce qui me plaît d'ailleurs dans le cinéma, c'est ce côté-là, c'est ce côté très coloré en fait et libre. Donc je dirais que oui, je viens d'une confession, mais que comme nous tous, en tout cas, je ne m'arrête pas à ça et j'aime le voyage et j'aime la découverte en fait de plein de choses. Et donc ensuite, je suis partie à Paris avec ma mère, mes parents ont divorcé, et là j'ai plutôt grandi dans des collèges très mixtes, même catholiques, enfin voilà.
Et d'ailleurs, tes parents divorcent quand t'as 13 ans, hein, si je me trompe pas.
Quand j'ai 6 ans.
Pardon, autant pour moi. Ah oui, d'accord, ok.
J'avais pas vu mon père depuis 10 ans dans le film.
C'est ça, ok, j'essaie de remettre les petits bouts ensemble. D'accord. Et puis le moins qu'on puisse dire, que quand on regarde ton film et qu'on écoute tes interviews et tout, c'est pendant tout ce temps où tu vois pas ton papa, t'es hyper fusionnel avec ta maman, c'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, vous faites plein de projets ensemble, tu en avais parlé tout à l'heure. Donc, cette fameuse chanson « Moi, je te dis LOL » qui a buzzé de ouf, de manière un peu surprenante, qui a un peu changé ta destinée.
Moi, je te dis LOL, c'est un mot qui rigole quand tu ne sais plus quoi répondre. Moi, je te dis LOL, c'est un mot qui s'envole, petit texto pour te faire fondre. LOL fait des poèmes, vole tous les thèmes, LOL évite les je t'aime.
Est-ce que tu peux un tout petit peu nous raconter en quoi ça a changé ta destinée?
Oui, c'est une bonne question, Jérémy, que tu poses. C'est... Bah, en fait, je pense que quand j'étais petite, j'avais un mythe. Je pense que c'est parce que j'ai des parents artistes. Et du coup, ma rébellion se situait peut-être à ce moment-là dans le fait de ne pas du tout être artiste. Donc, je rêvais d'avoir un bureau à la Défense et de travailler à la Défense dans une tour. Voilà. Ça, c'était mon rêve absolu.
C'est la vraie rébellion artistique.
Ce qui est drôle, c'est que maintenant, j'habite à côté de la Défense et je regarde ces tours et je me dis, mais comment
tu vois,
rêver de ça? C'est pas possible. Et
voilà. On a tout le temps besoin de se rebeller contre quelque chose. J'ai toujours cette petite théorie que si en fait on grandit dans du beau, on veut faire du moche, et que si on grandit dans du moche, on veut faire du beau. On a toujours besoin de toute façon de se rebeller contre quelque chose. Toi, voilà, tu voulais devenir, tu voulais bosser à la Défense, donc heureusement.
Promis, tu peux nous parler du champ artistique de tes parents, savoir ce que l'un et l'autre font en fait.
Alors mon père est artiste, donc peintre abstrait, donc il peint à l'encre de Chine en fait. C'est des œuvres très abstraites, assez, je dirais, qui viennent de son ventre quoi. C'est quelqu'un qui va se mettre quasiment en transe face à la toile et qui va faire jaillir en fait un peu toutes ses émotions et son chaos intérieur. Parce que lui en fait est issu aussi d'une branche où son père est un rescapé des camps de concentration et il porte aussi tout ça en lui et il le fait jaillir à travers la toile. Donc tout son travail en fait. J'ai l'impression qu'il est très cathartique aussi. Il a vraiment cette dimension-là. Et ma mère est une musicienne, en fait. Donc, elle a eu plusieurs carrières. En fait. Ma mère a commencé par le journalisme. Elle était journaliste pour le Elle, pour le Paris Match. Elle a travaillé en Belgique, en France. Et puis ensuite, au moment du divorce, elle a vraiment décidé de se retrouver en tant que... de se reconnecter, en fait, à ce qu'il avait toujours... ce qui lui avait manqué. Elle avait fait des études de piano au conservatoire. Et le divorce, en fait, a sonné comme un kick. Et elle s'est complètement réengagée dans son art musical. Elle a sorti un premier album. Et ensuite, il s'avère qu'on a formé un binôme créatif. J'étais très jeune, j'avais 14 ans. Et à partir de ce moment-là, on est parti sur beaucoup de projets avec ma mère.
Ça débute avec la chanson, c'est ça. Ça débute avec « Moi, je te dis lol ».
Tout à fait. C'est vraiment une chanson que ma mère a écrite, qu'au départ, elle devait interpréter en fait elle-même. Mais bon, c'était une chanson tellement, je dirais, plutôt adolescente, qu'elle se sentait pas de l'interpréter forcément, quoi. Elle avait quand même la trentaine, je crois, à ce moment-là. Et puis, elle s'est dit qu'il fallait que ce soit une jeune fille qui la chante. Moi, j'étais pas du tout dans ce...
Oui, je voulais... bosser à la Défense.
Voilà, je voulais bosser à la Défense, exactement. et puis, elle m'a proposé ça. Et bon, bah, comme une gamine, quoi, qui aime bien quand même un peu les jeux ou quoi, j'ai dit pourquoi pas, clac. J'ai chanté cette chanson et ça a marqué comme un changement... un peu de tout, parce que je me suis prise au jeu aussi. Ce clip, comme tu le dis, a buzzé. C'était particulier parce que c'était en 2009. C'était une époque où Internet commençait à émerger. Et ça a buzzé, si tu veux, mais moi, je l'ai mal vécu à ce moment-là. En fait, j'ai très mal vécu parce que il y avait des commentaires sous la vidéo qui étaient certaines personnes, tu sais, anonymes. Forcément, hein, c'est Internet. Aujourd'hui, ça m'étonnerait plus. Mais à l'époque, t'es jeune... tu vois pas le truc arriver, machin. Et c'était quand même assez agressif, assez violent.
Ouais, c'était un petit peu le syndrome Lolita, quoi.
Oui, exactement. Ouais. Le syndrome Lolita, ouais. Je recevais même des courriers chez moi. Enfin,
c'est chaud, ça.
Ouais, bah forcément, ouais. Ça entraîne une violence derrière laquelle tu t'attends absolument pas quand t'es adolescente et qui fait vraiment très mal, quoi, c'est sûr.
Ouais. Oh,
mais comment ils ont trouvé ta boîte postale,
quoi. Je sais pas. C'était délirant, cette histoire. Enfin, ils écrivaient des trucs, mais... tu sais, c'était les geeks, les pré-geeks, en fait.
Ouais, ok. Donc, ouais, ça a été marquant, en effet.
Et ça a été marquant. Bon, ensuite, je m'en suis bien remise et ma mère, on a décidé de supprimer ce clip. Puis, je pense qu'il y a quelques personnes qui l'ont laissé en ligne. La preuve en est, Jérémy, t'as pu le voir, mais en fait, normalement,
oui, mais ils n'ont pas le droit de le mettre. Grosse version pixelisée, hein. Grosse version pixelisée.
Voilà, ouais. Ça explique.
Ouais. Parce que le clip, en fait, avait cumulé le million de vues en deux jours. C'était sur Dailymotion. Et ça avait fait, tu sais, c'était Morandini qui le passait. T'avais plein de chaînes qui le passait machin, mais comme le buzz un peu de la semaine. Et à ce moment-là, ouais, ma mère a eu un peu peur. Elle s'est dit, bon, je vois que ça plaît pas trop à ma fille, on va peut-être un peu arrêter le truc. Et bon, il y en a d'autres qui l'ont laissé. Et bon, maintenant, je m'en fiche un peu parce que j'ai passé le cap. Et honnêtement, je le trouve, franchement, je le re-regarde ce clip et je me dis, bon, bah, il est punchy, il est sympa et c'est un truc d'ado, quoi, mais il n'y a rien de spécial. Mais voilà.
Donc ça a été un petit peu un élément déclencheur où quelque part tu passais de cette petite fille un peu timide au fond de la classe à la fille qui quelque part est un petit peu exubérante, qui s'habille colorée, qui rentre dans un délire un peu avec sa maman, qui chante, etc. Et puis pouf, c'était parti, la fusion avec maman, les projets musicaux ou plutôt films, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, t'as suivi des études de cinéma à l'école de la Cité de Luc Besson et là la collaboration avec ta maman continue, c'est-à-dire que vous lancez une web-série Les Lolis, hein, donc on continue de rester dans le thème. Tu en as parlé tout à l'heure aussi, donc Bonne Fête Maman, le court-métrage. Donc il y a cette grosse fusion avec ta maman, si je me trompe pas aussi, un projet de comédie musicale que vous avez dans les cartons depuis longtemps.
Ouais. qui est décliné de
«
Moi, je te dis lol ». C'était à l'époque la déclinaison de « Moi, je te dis lol ». On voulait vraiment créer tout un univers en fait autour de ce mot, comme une forme de genèse de comment ce mot a émergé, qu'est-ce que ça signifie, cette espèce d'ironie permanente en fait dans le langage SMS. Enfin, tu vois, parce que « lol », c'est un peu le premier mot qui a émergé, enfin, le plus symbolique et international, mais en même temps, personne ne sait vraiment d'où il sort parce qu'il a jailli comme ça dans un forum. Apparemment, ce serait d'ailleurs un flamand qui l'aurait.
Ah, ya! Sacré flamand. je suis trois quarts flamand, donc ça me va.
Mais il y a un vrai mystère autour de ce mot, et puis ça intéressait, je pense, ma mère de trouver les clés de ce mystère et peut-être aussi d'une forme de fracture. Parce que quand on dit lol, c'est oui, je t'aime. Lol, donc c'est je t'aime, moi non plus, un peu, c'est aussi ce côté très générationnel de l'ironie permanente. Et donc c'était de comprendre aussi comment on en est venu à avoir des rapports aussi toujours un peu teintés d'une ironie ou d'un cynisme.
Ouais. Ouais. Bon, en tout cas, c'est pas l'ironie qui teinte ton film. Ton film, il est d'une sincérité absolue. Preuve en est, tu me parles de rupture juste avant. Il y a cette fameuse phrase quand on commence le film où tu dis je ne suis pas une femme, je ne sais pas ce qu'est être une femme, je suis juste la fille de ma mère. Et voilà, on parlait de fusion avec ta maman, de complicité, de tous ces projets que vous avez menés ensemble. Et puis cette phrase, elle sonne comme une rupture. Donc j'ai l'impression que c'est un peu une remise en question de votre dynamique mère-fille. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux un peu nous raconter?
Alors, j'ai vraiment eu l'impression de vivre ce divorce, donc le divorce de mes parents, comme une forme de guerre intérieure. Et aussi, j'ai toujours eu l'impression d'être née de ce divorce. C'est-à-dire que je n'ai pas l'impression d'être née d'autre part que d'une fracture. C'est pour ça que ce film était tellement vital. C'est que je devais aussi réparer... Enfin, j'ai tenté de réparer. Je devais aller au fond des choses et comprendre comment on fait pour avancer quand on a toujours l'impression qu'on est né d'une fracture et aussi qu'on souhaite sans cesse réparer. Enfin, je me sentais vraiment fracturée à l'intérieur. Et ce film part de là, en fait. C'est pour ça qu'il y a une telle énergie, une telle nécessité. Il est vrai qu'à l'époque, c'est très délicat. J'ai grandi donc dans cette relation très très forte avec ma mère et ça a été un moteur magnifique parce que c'est aussi ce qui nous a permis de pas sombrer. Parce que, à l'époque, quand ma mère a divorcé, elle s'est retrouvée toute seule. Elle n'était pas du tout soutenue par ses parents. Mon père, à l'époque, était pas soigné parce qu'il est bipolaire. Donc, il avait des phases maniaques très intenses qui étaient notamment soutenues par des membres de sa famille qui ne voulaient pas voir, si tu veux, qui devaient être soignés. Donc, ma mère avait été très seule, en fait, à ce moment-là. Et assez courageuse, assez exemplaire. Mais moi, en tant que fille, en tant qu'aînée, j'ai tout de suite compris que, il fallait que je sois aux côtés de ma mère. Et c'était vital pour elle et vital aussi pour la cellule familiale qu'on essayait de...
qui était donc ma mère. Il y a aussi ton petit frère, hein, c'est ça?
Exactement, avec mon petit frère. Et il y a un moment où je me suis complètement oubliée. Et je pense que c'est aussi... Je me suis oubliée parce que forcément, j'ai quitté les cours à 14 ans. J'étais dans un projet professionnel avec ma mère et l'objectif était de s'en sortir. En fait, ce projet était... Il y avait dans ce projet-là de « Moi, je te dis lol » qui peut paraître complètement léger, etc. Mais il y avait une dimension de pulsion de vie très forte qui était de voir la vie d'un côté tout à fait joyeux pour oublier en fait le drame quoi qu'on vivait à côté.
Comme pour oublier la réalité.
Oublier la réalité. Et donc, je me suis complètement moi-même... j'ai fondu, en fait. Je me suis fusionnée à ce projet, donc fusionnée aussi à l'élan de ma mère pour donner vie en fait à tout, donc cette chanson, cette comédie musicale et tout ce qui se déclinait, que je me suis oubliée. Donc en fait, ma naissance en tant que femme a été plus tardive parce que mon désir féminin et mon désir tout court n'était pas né quand j'avais, enfin c'était pas du tout moi mon objectif, c'était que ma mère puisse payer le loyer tous les mois, tu vois, que on puisse que les problèmes de justice avec mes parents ça s'arrête, que mon frère faisait des crises en rafale. J'étais vraiment dans un autre truc, tu vois. J'étais dans un truc de responsabilité, tout en étant dans un projet très adolescent. Mais j'avais pas du tout les conversations avec les copines. Tu vois, ouais, il est trop mignon lui, nanana. Est-ce que tu penses que il est amoureux? Tous ces trucs-là n'existaient pas dans ma tête. Moi, c'était développer ce projet avec ma mère. Il y avait une dimension presque d'empire familial que j'avais envie de monter pour créer toute une autre dimension qui puisse en fin de compte atténuer en fait tout le drame qu'on avait vécu ensemble. Et donc toute mon énergie je l'avais mise dedans. Et s'est retrouvé qu'à un moment, forcément, j'ai senti comme comment expliquer
un déracinement.
Le retour
peut-être
à la réalité a été brutal en quelque sorte. Ouais.
Mais comment s'est opéré ce retour à la réalité?
Donc j'ai fait un premier court métrage donc qui s'appelait Bonne fête maman. Il y a eu mes 2 années de scénario donc à l'école de la Cité. Et puis comment il s'est opéré? Je pense que c'est un truc qui est monté petit à petit, si tu veux. Je sentais que j'étais un peu
une pulsion de vie
qui avait un décalage. Ouais. Après, je prône la différence, donc je suis pas là. Aujourd'hui, je trouve ça bien parce que ça veut dire que je me suis écoutée, si tu veux. J'entends beaucoup de mes copines qui me disent « punaise, c'est fou, moi j'ai eu un premier rapport, mais en fin de compte, j'étais pas prête, mais c'est parce qu'il y a une injonction sociale qu'il fallait qu'à 15 ans, moi, c'est pas le cas. Forcément, j'avais pas de désir, donc du coup, il y avait un truc où j'étais… mon désir se situait dans le créatif, complètement, tu vois, je mettais tout dans le créatif, tout dans la création. Mais donc, petit à petit, en fait, en faisant mes cours de scénario à l'école de la Cité… Évidemment, tu vois, mes priorités à moi n'étaient pas les mêmes que celles autour de moi. Et puis, petit à petit, vivre avec ma mère m'était devenu à ce moment-là très difficile. J'avais l'impression d'étouffer. C'était assez dur à vivre. J'ai été forcément un peu violente aussi, ce qui n'était pas la face. Enfin, c'était pas évident.
Ah oui, c'est la réaction qui te vient tout de suite. C'est normal de réagir par la violence à quelque chose qui est un petit peu latent pendant des années. Et puis finalement, t'as besoin de le sortir, l'exprimer. Puis c'est ce qui fait que derrière, ça déclenche des choses. Et après, on peut discuter. Après, on peut réparer. Après, on peut. Enfin, il y a des choses qui se passent comme ça. À un moment, faut bien un déclencheur, quoi.
Exactement, exactement. Et le film, je pense, a été aussi une façon de comprendre ça, de comprendre la naissance aussi de parce que la fusion avec ma mère n'est qu'une conséquence de la violence, en fait, tu vois, du divorce qui fait qu'on s'est fusionné. C'est comme, je parle de guerre, mais c'est un peu, c'est comme si on vit une guerre, clac. Toi, tu te soudes avec ton voisin qui est ton allié, tu vois. Tu vas créer une dimension hyper forte avec lui pendant 3-4 ans parce que vous avez un objectif commun, et soudainement, la guerre s'arrête.
Bah oui, et la survie n'a plus d'intérêt. Il faut commencer à vivre, en fait. Quand la survie s'arrête, il faut commencer à vivre.
Exactement. Voilà. Moi, je savais pas ce que ça voulait dire. Donc, ça a été un moment assez particulier. Mais c'est ce que tu dis, c'est ça. Il faut arrêter de survivre, il faut vivre.
Ouais. Donc, t'as pu commencer à vivre. Et c'est ce dont tu parles dans ton film. Au tout début, il y a la relation avec ce garçon où soudainement, tu prends conscience qu'il y a peut-être quelque chose qui, gros guillemets, qui cloche, des choses que tu comprends pas, peut-être des choses qui sont plus grands que toi, qui te dépassent, et tu te dis, allez, vas-y, on va aller explorer tout ça, caméra au point, ça se trouve, c'est dans ma famille, on va en faire un film. Enfin, je veux dire, c'est quand même hyper fort, mais t'as été à l'écoute de toi, de ton corps, t'as commencé à vivre, et puis... Donc, je veux dire, c'est quand même...
C'est peut-être un process... T'as un process créatif qui vient vraiment, enfin, du fond de tes tripes, quoi. Là, c'est, je veux dire, c'est
le
plus primitif qu'on peut imaginer, quoi.
C'est fort parce que tu disais juste avant qu'en fait, tu t'étais lancé à corps perdu dans le créatif en t'oubliant, on peut dire, allez, je sais pas, corporellement peut-être, ou dans ton désir de femme et ton désir tout court. Et puis après, tu te dis, OK, je vais me reconnecter à mon désir et je vais utiliser la créativité pour ça. C'est trop fort, c'est trop bien.
Oui, c'est vrai, parce que je pense que c'était quelque chose que je pouvais faire, mais du coup, je l'ai mis dans un sens différent. Tu vois, dans un autre angle. C'est comme si finalement la caméra, elle a pris plus de distance et il fallait aussi regarder dans l'ensemble. Donc, c'était un vrai travail, je dirais personnel aussi. Enfin, bien sûr, personnel et cathartique, pour grandir, pour essayer de comprendre aussi les mécanismes, en fait, qui ont fait que dans ma famille, cette dysfonctionnalité, elle était à tous les niveaux. Si tu veux, aujourd'hui, la relation avec ma mère, elle reste créative. Et j'adore ça parce que je considère que c'est une chance d'avoir une mère avec qui je peux avoir, qui est une partenaire de créative. Mais en revanche, si tu veux, j'essaye que de plus, c'est pas, enfin, d'harmoniser mes champs, d'avoir évidemment ma vie. Et parce que tout ça est une question de dosage. Quand j'ai eu cette crise avec ma mère très très forte, ma mère est partie aux États-Unis pendant 2 ans. Je suis restée seule à Paris. On a eu, tu vois, c'était un truc hyper.
C'était avant le film, ça?
On était à des milliers de kilomètres l'une de l'autre. Enfin, donc il y avait une vraie rupture kilométrique, quoi. Et ouais. Aujourd'hui, c'est plus le cas, c'est beaucoup plus doux. Mais c'est vrai que souvent, c'est très rare. Et voilà, c'est passé par un côté assez intense pour aujourd'hui s'adoucir. Et en fait, aujourd'hui, me dire que ce parcours-là, j'avais honte. Hein, j'avais honte du fait d'être décalée. Quand ce garçon me dit machin, moi, j'étais pas prête. Le garçon qui me sort cette phrase en disant « ton père doit être fier de toi », petite phrase un peu gentille, hein, et de séduction, mais moi je le prends très mal parce que je me dis, mais déjà, il ne connaît pas mon père.
C'est ça.
De quoi je me mêle.
Il avait tapé dans le mille là.
Ah ouais, c'est clair. Il pensait balancer une petite phrase bateau, il n'aurait pas cru que ça allait lancer un film documentaire qui allait sortir au cinéma.
Non.
Et d'ailleurs, comment est née l'idée de ce film? Donc tu as envie de te réapproprier un peu ta vie, tu te rends compte qu'il y a des choses peut-être qui clochent chez toi, des choses que tu t'expliques pas. Mais c'est une chose, et je pense qu'on est beaucoup, et peut-être il y a des auditeurs et des auditrices qui nous écoutent qui ressentent ça aussi, hein. On a tous nos biais, les choses qui...
Ouais, et puis surtout, on aborde vraiment le sujet des valises familiales, quoi. C'est-à-dire qu'on transporte tous un petit peu les bagages de nos ancêtres, et on sait pas quoi en faire. Et souvent, des fois, on en a même pas conscience, on les a sur notre dos, et à un moment, on se retourne. Alors toi, ça arrivait plus tôt, mais il y a des gens, ça leur arrive à 30 ou 40 ans, ils se retournent, ils voient, ils ont un gros bagage dans le dos, ils savent pas pourquoi. Et là, on part dans des thérapies, des choses comme ça. Donc, et toi, finalement, alors on verra ce que tu penses du mot thérapie un peu plus tard dans la discussion, mais du coup ce film là quelque part, bah voilà, tu le démarres avec ce sentiment, en fait, d'avoir des valises qui sont pas les tiennes, quoi. En gros, c'est un peu l'idée.
Ouais, moi j'avais l'impression de porter je pense que mon père est quelqu'un qui lui-même porte les valises de son père, comme
oui,
il le porte,
tu l'as bien retranscrit.
Et il a ce truc transgénérationnel qu'il habite au plus profond de ses tripes. Donc, bon. Et puis, du côté de ma mère, voilà, on va apprendre aussi dans le film un point assez central sur sa vie de femme, puisque ma mère a été victime d'inceste quand elle était enfant. Et donc, c'est quelque chose qu'elle ne m'a jamais dit, mais je pense que c'est quelque chose qu'en fait, si c'est pas dit, c'est latent. Oui. Et en fait, ça se transmet aussi. Et le transgénérationnel, en même temps, c'est complètement fascinant. Enfin, moi, je suis complètement fascinée par ça. Et de l'autre côté, je crois que c'est un vrai biais pour travailler sur soi de façon profonde. Et après, plus on le travaille, et plus c'est beau. Parce qu'en fait, on peut vraiment aussi en faire... tout est matière, en fait. Tout est matière à transformation. Et moi, j'ai travaillé, ouais, c'est vrai, dans le film, sur le transgénérationnel. Pour en faire quelque chose dont aujourd'hui je peux le regarder en face, mais ne plus le porter, en fait. C'était vraiment ça. J'avais vraiment l'impression.
Tu l'as déposé.
Je l'ai déposé, exactement.
Mais c'est une chose de se rendre compte de tout ça. La plupart d'entre nous, pas tout le monde, mais certains d'entre nous, quand on prend conscience de ça, on va se dire, allez, je vais faire un travail thérapeutique.
Ouais, voilà,
pour,
c'est ça.
Apprendre à déposer, se libérer et tout. Toi, non, tu te dis, je vais faire un film. Et t'as 21 ans.
Je fais un documentaire. Même mieux, un documentaire.
Ouais.
J'implique tous les personnages de ma famille dedans.
Alors, certes, tu faisais des études de ciné et tout, mais comment ça t'est arrivé, cette idée de faire un film documentaire sur ton histoire?
En fait, moi, j'écrivais à l'époque beaucoup des scénarios de fiction. Donc, à la base, je voulais écrire un film sur une famille dysfonctionnelle, mais une comédie un peu, dans le genre d'un Woody Allen ou quoi, ce côté dysfonctionnel total, mais tragicomique. Seulement, je butais complètement sur plein de choses parce que j'avais l'impression que j'avais pas les clés dans ma propre famille et que du coup, je pouvais pas aller au bout de ce qui était le cœur et le nerf, en fait, du sujet et de ce que j'avais envie de traiter. Et il s'avère que j'ai fait une rencontre assez déterminante. C'est qu'à l'époque, j'ai habité chez une copine, Anaïs, qui cadre tout le film, qui, en fait, elle faisait des études de documentaire. Et tous les soirs, on se racontait nos vies. Et je lui disais, je suis en train d'écrire ça. Puis je lui parlais de mon père. Et je devais, à ce moment-là, revoir mon père. Mais je sentais que c'était lourd, quoi, pour moi, psychologiquement, d'aller le revoir. Et j'avais besoin d'être accompagnée et ensemble.
Oui, ça faisait 10 ans. 10 ans que tu l'avais pas vu, pas vraiment communiqué avec lui.
C'est ça. Je l'avais vu par bribes, mais de façon une heure, tu vois, une fois tous les ans, tous les 2 ans, tu vois, un truc comme ça. Et elle m'a dit, je t'accompagne. Et à ce moment-là, on a pris une caméra. Et en fait, c'était une rencontre assez déterminante. Anaïs venait aussi d'un parcours où elle était enfant de divorcée. Elle était fille de psy, d'ailleurs. Et moi, il y avait un truc où j'avais pas de limites. Enfin, c'est vrai. Hein,
ouais.
Fallait le faire, ce film. J'étais prête à tout. D'ailleurs, mon père, c'était à prendre ou à laisser. Quoi. Il y avait ce côté où soit j'arrive avec la caméra, soit bon, bah, on se voit pas. Il y avait ce côté.
Tu l'avais prévenu?
Je l'avais même pas prévenu.
En amont? Oh, punaise. Il était sur le. Ok.
Vraiment, non,
c'est marrant parce que t'es vraiment dans l'œil du cyclone en fait de l'histoire et en fait Anaïs elle va te servir finalement de longue vue en fait de regard extérieur que tu peux absolument pas avoir toi-même en fait tu te serais perdue toute seule dans le documentaire on va parler après de la durée de tournage hein, qui est monstrueuse et donc voilà est-ce que Anaïs justement elle t'a apporté en fait justement cette respiration là et cet éclairage que finalement t'auras peut-être pas pu avoir toute seule.
Je pense qu'Anaïs a été un vrai pilier pendant tout le tournage. C'était assez magnifique parce que c'est quelqu'un qui a une grande empathie, qui était aussi très discrète, donc qui comme elle avait aussi ce schéma familial, j'avais l'impression que ça lui faisait du bien en fait de filmer ma famille, comme si elle réparait aussi quelque chose de sa propre famille. Donc on s'est trouvé. Je pense que c'est vraiment une rencontre étonnante parce que ça a duré 3 ans et ensuite au montage. J'ai plus pris le film à bout de bras en me disant j'ai besoin de monter et de faire cette histoire, donc je l'ai monté pendant 1 an et voilà. Mais c'est vrai que sur le tournage Anaïs a été magnifique quoi, et comme tu le dis Laurent, elle avait ce regard extérieur et cette douceur aussi et ce calme, parce que moi évidemment d'aller retrouver ça, d'aller en première ligne enquêter, me ramasser toutes ces informations, je te raconte pas le tunnel, hein. Quand t'es dedans, tu sais pas trop, tu te dis, bon, bah, y a peut-être pas d'issue, quoi. Tu sais pas trop.
Ouais, puis t'avais imaginé des choses aussi, sans forcément mettre beaucoup d'enjeux dedans. Et y a des choses qui t'arrivent, que tu n'imagines même pas, en fait, que tu vas découvrir en faisant finalement ces rushs, quoi.
Tout à fait. Et c'est ça qui est un travail.
Ta matière, elle évolue, en fait, à mesure que tu mets les mains dedans, quoi.
Ouais, c'est un peu se lancer comme ça à corps perdu et se dire, bah, en fin de compte, je suis ma propre pâte à modeler. Et j'accepte le fait de me heurter à ce qui va venir, à la surprise. Non, mais j'ai l'impression, c'est ce que tu disais Laurent, et c'est très juste, c'est que comme je suis moi-même sujet et...
Et actrice, etc. Enfin, tu es vraiment investi totalement à tous les niveaux en fait dans ce film-là. Ce qui te met à la fois dans un truc un peu méta, parce que tu es également personnage en fait du documentaire, et en même temps, c'est ton documentaire, donc...
Voilà, donc c'est là où Anaïs était très importante, si tu veux. C'est là où avoir ce pilier à côté de soi qui ne fait pas partie de la famille et qui a un soutien vraiment très bienveillant, c'était très, enfin, magique, je pense que... Et c'est très beau, et se dire que finalement, les films comme ça, c'est des rencontres. Après, il faut un désir, pour le coup, le mot désir, il est important, mais une énergie sur du long terme, parce que c'est un 3-4 ans intense, quoi.
C'est clair. Alors tu disais que t'étais ta propre pâte à modeler, mais ta famille aussi, ton papa, ta maman et ton grand-père, ton oncle, enfin ta grand-mère, ton frère, tout le monde y passe. Et moi, quand je vois ça, moi j'ai une réaction viscérale. C'est mais comment la famille réagit-elle quand on leur propose, quand on leur présente le projet ? Parce que voilà, faut quand même avoir une forme de consentement pour je vais venir te filmer, te poser des questions, je vais aller fouiller dans les interstices de la famille, c'est pas une petite balade de santé. Et bon voilà, on a affaire à une Romy qui est clairement curieuse et qui va pas lâcher le morceau, on le voit dans des morceaux de ton film. Et je me mets à la place, si tu veux, de tes parents. Et ça vient aussi en écho avec mon histoire et mes parents. Et évidemment que ta démarche, elle m'inspire énormément. J'aimerais aussi peut-être développer des projets comme ça à l'avenir. Mais moi, j'ai vraiment ce truc de, mais est-ce qu'il n'y a pas eu de la crainte ou de l'appréhension de la part de tes parents à l'idée d'exposer des secrets de famille, par exemple? Ou simplement de répondre à ta curiosité avec une caméra? Parce que on s'imagine bien, enfin, j'imagine qu'ils s'imaginaient bien que ça allait probablement pas rester dans un tiroir.
À l'époque, mon père se disait « ce truc est tellement bizarre que je pense que ça ne servira qu'à elle ». Il y avait un truc, okay. Il ne pensait pas forcément que... Il regardait ça d'un point de vue un peu... Il l'a fait.
C'est le délire de ma fille.
Ouais. Il l'a accepté et de façon très carrée. Voilà, chacun a signé évidemment une convention. Mais il avait... Ou je lui disais, hein, moi, dans ma tête, c'est un film. Mais... Je pense que mon père y croyait à moitié, très sincèrement. jusqu'à la sortie, il se disait, je ne vois pas comment une histoire comme celle-ci puisse avoir une vocation plus large que la famille. Voilà. Mais il a complètement changé par la suite. C'est-à-dire que quand il l'a vu, quand ses amis lui en ont parlé, parce que du coup, ce qui est marrant, c'est qu'il a des amis qui sont très dans la culture. Donc, à chaque fois qu'ils entendent des nouvelles du film, ils le lui transmettent. Et mon père est toujours très étonné. Et en même temps, je pense que mon père est quelqu'un de profondément aussi artiste. Donc, cette démarche pour lui est au-delà d'un film, c'est une œuvre, en fait. Et donc, il comprend. Mmh. Il comprend qu'en fait, on puisse se servir aussi de sa famille comme une œuvre. Et c'est ça qui est magnifique chez lui. Je pense que sa dimension artistique est sensible. Au-delà d'être mon père, c'est son côté artistique qui prend le dessus et qui voit ça comme une... Il se détache de lui, en fait. Voilà, il y a un détachement qui fait qu'il arrive à le voir aussi comme une œuvre. Et du côté de ma mère, c'était au départ un peu plus compliqué parce que forcément, elle voulait pas se retrouver... cette histoire donc qui arrive dans le film, donc on parle d'inceste... ça n'a pas surgi de la bouche de ma mère, hein, ça surgit de la bouche de ma grand-mère. Ma mère ne m'en avait pas parlé. C'est ma grand-mère qui va m'en parler. Je vais ensuite interroger ma mère parce que je suis bouleversée à ce moment-là. Moi, à ce moment-là, je veux arrêter le film parce que vraiment, ce que ma grand-mère me dit me renvoie à beaucoup de choses où je me dis d'accord, je comprends mieux.
Ça veut dire que quand tu te lances dans le film et que tu en parles à ta maman, elle t'en a jamais parlé et elle se doute qu'a priori, à un moment donné ou un autre, cet événement va ressurgir.
Alors, pas du tout. Elle n'a jamais pensé à ça. Parce qu'elle pensait que... Et mon film, à la base, travaille sur le divorce de mes parents. Donc, c'est juste qu'en posant des questions, c'est un peu comme un tiroir ou une poupée matriarcale. En fait, on épluche quoi les choses. Et donc, petit à petit, d'autres éléments surgissent. Et elle ne s'y attendait pas du tout.
D'accord. Ok, donc elle s'y attend pas, donc du coup, feu vert, vas-y ma fille. Non, tu disais qu'elle était quand même comme une certaine appréhension, mais voilà, elle était partante. Enfin, parce que moi, ça éveille une appréhension de que diront mes parents si je me lançais dans un tel projet, tu vois.
Ouais, bien sûr.
Est-ce que du coup, tu peux nous parler un peu de ton processus de création? Donc, tu as porté ce projet à bout de bras. Comment, au fur et à mesure du temps, le projet a évolué? Tu disais, voilà, c'est comme une petite boîte, l'une chose amène à l'autre. Est-ce que tu peux nous parler voilà, de cette aventure que tu as vécue à travers la création de ce film?
Ben, je sais que j'ai vraiment besoin pour un projet d'être viscéralement investi, même pour la suite, tu vois. Là, je suis sur deux autres projets qui ont des liens aussi avec des choses que je vis. J'ai besoin de le porter et j'ai besoin d'avoir l'impression qu'en allant chercher peut-être des choses qui ne sont pas forcément faciles, il va y avoir un travail de libération. J'ai besoin d'avoir cette sensation en me lançant dans un projet, en me disant c'est que ça va libérer ou déboulonner des choses. Et du coup, je suis prête à aller au bout. C'est genre un peu ouvrir un chakra. Enfin, j'appelle ça on ouvre à chaque fois. Et donc, je me dis bon, là, ça va ouvrir quelque chose. Donc, il faut que j'y aille. Et j'ai cette sensation d'être appelée par quelque chose qui est au-delà de moi. Et qui, des fois, je me dis quand même, tu te lances dans des projets qui sont pas simples. Est-ce que tu voudrais pas faire des choses toutes simples qui te rendraient joyeuse immédiatement? Mais je pense que j'ai besoin de passer par des moments. Enfin, j'ai besoin. Il y a comme des grandes traversées comme ça, qui sont pas évidentes ou pas toujours simples, mais qui à la fin, en tout cas, me procurent cette sensation d'avoir avancé. Voilà. Déjà, ça c'est le moteur de chaque.
Il y a une dimension spirituelle ou transcendantale dans tes projets. Ça a toujours été?
Je pense que je l'ai plus, en tout cas, conscientisé à partir de ce film. Mais avec les Lolis, il y avait quand même, le travail avec ma mère, il y avait quand même cette dimension aussi parce qu'il y avait le fait de changer un peu le karma familial, quoi. Il y avait cette dimension d'ouvrir sur un autre champ d'énergie familiale. Et puis au-delà de ça, ce que je trouve assez fascinant, c'est que, mon travail au départ, je jette un peu tout sur la table et puis ensuite je structure. C'est comme ça que je travaille. C'est un travail assez impulsif à la base, où j'ai un besoin, où je lance plein d'idées, je me censure pas. Tout est complètement libre et lâché, et puis ensuite je structure. Ouais. Et maintenant de plus en plus, parce que comme avec ce projet j'ai pu créer ma propre boîte de production, et que
c'est génial.
Si tu veux, comme il n'y avait pas du tout de financement pour la post-prod, je me suis mise toute seule à monter ce film pendant un an sur mon ordi portable, en me disant ben il y a pas vraiment le choix quoi. Il va falloir que je trie une matière. Il y a une centaine, 200 heures de rush. Et c'était, tu sais, c'était quand même un moment. Mais du coup, ça m'a poussée à être plus organisée et à me dire bon bah au fond, s'il faut faire des choses un peu plus, ça m'a poussée à me structurer beaucoup.
Et une histoire de patience aussi.
Exactement. Et avoir de la patience. Ça, c'était. Bah,
je pense que c'est parce le que là, tu dis 200 heures de rush. Je vois Jérémy sur les montages. C'est déjà pas mal. Et ouais. Des fois, c'est des rushs d'une heure et demie pour en faire une heure. Là, t'en as 200 pour faire un documentaire. Finalement, cet apprentissage de la patience et puis aussi d'être aussi dans l'accueil, en fait, faut recevoir les choses que tu n'imaginais pas qui allaient arriver et qui vont bouleverser ton montage et finalement l'histoire que tu vas donner au public. Tout ce processus sur le long terme, en fait, qu'est-ce que ça t'a apporté et qu'est-ce que ça a changé dans ton approche finalement de créatrice?
Je pense que ça m'a rendu plus précise en fait avec mes envies et mes désirs, c'est-à-dire qu'au début j'étais un peu, ouais, il y avait un petit côté forcément, c'est ton premier projet, tu te lances, d'accord. Maintenant, j'ai l'impression d'être un peu plus précise, de comprendre aussi comment chaque projet fonctionne. Donc, mais toi, tu me demandais ce que ça avait changé en moi.
Ouais. Dans ton chaos intérieur.
Dans mon chaos intérieur. Ça m'a apaisée, en fait. J'avais l'impression d'être quelqu'un en feu. Enfin, voilà, j'avais l'impression d'être en feu à l'intérieur. D'avoir beaucoup d'énergie, mais dans et peut-être aussi une certaine colère, vraiment. Je pense que j'avais une colère très au fond de moi, oui, j'en avais une. Et aujourd'hui, je me sens plus apaisée. C'est comme si j'avais été... j'avais pointé, en fait, clac, pile sur la colère. Je l'avais fait exploser dans le film. Et que du coup, maintenant, je... Comme un ballon, tu vois, qui a dégonflé. Il est... La chose est apaisée et tout ça, je l'ai vu, je l'ai vécu. Ça a été un film de combat. J'ai l'impression un film de combat et de paix, en fait. J'aime dire que c'est un film comme ça parce qu'il est à la fin, il apporte aussi de l'amour. Moi, c'est ça que je...
Tu peux nous parler de quelques moments de combat et de paix pendant ton tournage?
Ouais. Le combat, c'était de ne jamais rien lâcher parce que, comme tu le dis, Laurent, c'est un vrai travail de patience. Et j'avais l'impression à chaque fois que j'enquêtais, enfin, d'apprendre des choses qui étaient douloureuses en fait, et il fallait que je reste stoïque, il fallait que je continue la bataille, alors que moi j'avais par moments, j'avais l'impression que j'allais m'effondrer.
T'as eu envie d'arrêter à un moment ?
Et oui, j'ai eu envie d'arrêter. J'ai eu envie d'arrêter notamment au moment où ma grand-mère me parle de ce que ma mère a subi. Ça, c'était pour moi. Un des moments les plus marquants, ça a été vraiment très difficile à ce moment-là. Je me suis dit, est-ce que je continue? Est-ce que j'ai la force de continuer? Mais à chaque fois, il y avait quelque chose qui me relevait et à chaque fois, ça redescendait et claque, l'envie était plus forte que tout. Il fallait que je remonte sur le cheval, il fallait que j'y aille. Et j'ai eu l'impression, voilà, de combattre, mais au-delà du film, la post-production, typiquement, et là, je parle plus d'un point de vue technique, il y a eu pas mal de choses. Enfin, si on veut rentrer dans le technique, ou même dans la production, typiquement, on avait eu un soutien de la commission belge qui pouvait financer la post-prod. On était super contente avec notre coproduction belge. On avait été donc choisi en commission artistique et à la toute fin, donc 2 mois plus tard, quand tout le planning était préparé, tous les techniciens étaient bookés, finalement, il y a eu un problème sur la répartition franco-belge du film, qui fait que comme le film avait un truc de pourcentage qui matchait plus avec les desiderata de la commission. Et ils ont dit, ah bah non, c'est pas possible. Du coup, on donne pas le soutien.
Oh, punaise.
Ah ouais, c'est
trop
big
chaud.
Shit happens, là.
Punaise.
Ah ouais.
Oh là 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 là.
Donc, du coup, tous les techniciens, à une semaine du truc, tous les techniciens, fallait les... Déjà, c'était hyper gênant parce qu'ils avaient booké. Et puis, ouais. La production me dit, punaise, je suis désolée, Romy, on n'a pas de plan B. Du coup, on sait pas où faire, quoi faire. Nous, de notre côté, on ne sait plus quoi faire. Et donc, moi, je me retrouve un peu, je me dis, punaise... Comment on fait? Là, il s'avère qu'il y a eu un studio qui s'appelait Les Films de la Récré, qui était adorable et qui en fait m'a dit, écoute Romy, j'ai compris le problème, moi je te mets mon studio à disposition pendant un mois, gratos, tu peux venir ici, et j'ai des amis qui peuvent t'aider pour le son. Et puis ensuite, je suis entrée, donc c'était à Bruxelles, j'étais chez lui pendant un mois, et puis ensuite, j'ai monté le film, en fait, je l'ai monté toute seule. Et ça, c'était inopiné parce que j'avais jamais fait de montage avant. Mais c'est, en fait, j'ai eu l'impression que c'est à ce moment-là du film que j'ai vraiment pris la matière C'était peut-être le moment le plus combatif, parce qu'il a fallu vraiment sélectionner les rushs, faire ce travail in-out, être dans le film et à l'extérieur. Donc j'avais l'impression de me dissocier en permanence entre moi, sujet, et moi, regard extérieur. Ça, normalement, c'était Anaïs qui me le donnait pendant le tournage, mais au niveau du montage,
tu l'avais plus, d'accord.
Sur le fait que je reprenais le truc. Et donc, c'était un truc un peu schizo, mais en même temps extrêmement formateur. Et c'est là où j'ai compris le mot patience, j'ai compris le mot rigueur, j'ai compris le mot combat et j'ai compris le mot vital. Là, c'était le tunnel, quoi.
Ouais, qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui n'est pas essentiel, en fait. Il faut savoir le trier, quoi. Et c'est un petit peu, voilà, le travail du montage, c'est vraiment ça, quoi.
Exactement.
Et en parlant de montage et de choix, moi, il y a quelque chose qui m'a intrigué quand je suis allé faire un petit tour sur ton compte Instagram. À un moment donné, tu parles de ta maman et tu lui rends hommage et tu dis que dans les moments de doute, elle t'a aidé à faire les choix de séquences, tu vois. Du coup, moi, ça me questionne parce que, vu que c'est un film sur le divorce de tes parents, est-ce qu'il n'y a pas un risque de réécrire l'histoire familiale à son avantage si elle a la main mise sur certaines séquences? Enfin, j'imagine bien qu'elle n'avait pas la main mise, c'était toi qui décidais, mais voilà, on entend bien que quelque part elle...
Ah oui, c'est quoi tes limites, c'est quoi tes règles par rapport à ça, ouais, exactement.
Déjà, je trouve, enfin, moi, ce que j'aimais bien me dire dans ce film, c'est que c'est aussi un travail collaboratif familial. J'avais envie que ce divorce du divorce soit fait ensemble. Et c'était pas juste moi toute seule. Bien sûr qu'il y avait ce premier truc, j'enquête, je vais regarder ça d'un point de vue extérieur. Mais s'agissant aussi de la confiance totale que m'avaient fait mes parents, mon père, ma mère, et notamment du regard artistique de ma mère que je pouvais aussi regarder d'un point de vue professionnel et pas que maternel, il s'avère que ma mère aussi est capable d'avoir des choix comme mon père, en fait, de se dissocier. Je pense que c'est leur fonction artistique qui leur permet ça. Ils sont mes parents, mais ils ont aussi un regard artistique qui est unique et qui est, je trouve, très bon dans chacun de leurs domaines. Et j'ai fait confiance aussi à ça. C'est-à-dire qu'il y avait des moments où moi, j'avais des gros doutes, notamment de séquences, je ne savais plus comment les placer. Et souvent, je disais, tu préfères A ou B, A ou B. Et ma mère m'aidait et elle avait... Et ça m'a fait plaisir, en fait, qu'elle le fasse, parce que j'avais aussi l'impression de lui rendre la confiance qu'elle m'avait donnée aussi. C'était dans ce sens-là. Et je trouve qu'elle a été très digne, parce que elle ne s'est pas du tout mise forcément en valeur. Elle s'est mise dans ses choix au profit du film, quoi.
Quelles ont été leurs réactions une fois que le film est sorti? Quand ils ont vu, le résultat, ça devait être hyper fort pour eux en tant que parents.
Ouais. Est-ce qu'ils l'ont regardé? Est-ce qu'ils l'ont vu en entier?
Ils l'ont vu en avant-première au Grand Rex à Bruxelles. Non, c'est pas le Grand Rex à Bruxelles.
Ils l'ont vu à Bruxelles et c'était au cinéma Galerie, qui est un super joli cinéma dans les galeries. Et c'était l'année dernière, en juin dernier. Et ils étaient super bouleversés. C'était très beau parce que mon père le voyait pour la toute première fois. Ma mère avait vu des séquences, mais pas tout. Ils se sont mis côte à côte pendant toute la séance du film. Ouais, et je me rappelle que ma coproductrice belge était en pleurs derrière. Elle est arrivée après, il y avait le Q&A à la fin et elle était là avec des larmes parce que, et je lui dis qu'est-ce qui s'est passé. Elle m'a raconté la scène. Moi j'étais devant donc j'avais pas vu, mais voilà, oui, c'était très touchant pour eux et ce moment-là était très beau en tout cas. Donc ils l'ont réceptionné. Pour moi, enfin ils m'ont dit en tout cas. On sent l'amour qui transparaît, quoi, malgré tout, malgré le combat, malgré les heurts dans le film.
C'est clair. C'est clair. Et comment le film...
Jérémy, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que t'as pensé du film de Romy?
Bah, moi, ça m'a bouleversé. Enfin, parce que, je m'y attendais pas à celle-là.
Laurent, je suis là pour ça.
qui m'envoie la balle. Non, bah, moi déjà, ça m'a beaucoup touché parce que moi, le divorce de mes grands-parents a été un événement qui a redistribué les cartes. C'est un peu le grand drame du côté de mon papa. C'est vraiment quelque chose qui a tout teinté. Donc voilà, quand tu m'as écrit Romy, divorce de mes parents, film documentaire, j'étais genre, moi, je suis. Mes parents sont toujours ensemble, ils sont mariés, mais je veux dire, il y a cette ombre du divorce de mes grands-parents. Moi, j'ai jamais rencontré mon grand-père, par exemple. Il est décédé et même quand il était vivant, je l'ai jamais rencontré. Donc je vous raconte ma vie là, mais et ensuite moi je suis aussi travaillé par par mes fantômes à moi, et Laurent et moi on est tous les deux très très habités par la créativité comme outil transcendantal. On a tous nos histoires, on a tous nos bagages, nos valises, les trucs cool, les trucs moins cool, et on est hyper. Moi, la créativité m'a permis de me de transcender mon histoire et ma situation. Et donc, du coup, tu le fais à merveille dans ton film, et c'est hyper courageux. Et moi, je me mettais à ta place, quoi. Je me disais, moi, j'ai hâte, j'aimerais, et normalement, je vais le faire, mais avoir certaines conversations avec mes parents, avec mon papa, avec ma maman, avec des gens que j'ai connus à l'époque sur certains sujets. Et moi, je te cache pas, mon plus gros flip, c'est que diront mes parents, quoi. Pourtant, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de confiance, tu sais, mais c'est juste de me dire waouh, d'en faire un film comme ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'on voulait entre autres te recevoir sur ce podcast. Et je vois Laurent avec son petit sourire satisfait. Et toi, Laurent, ça t'a fait quoi, ce film?
Bah, je m'attendais à rien, comme d'habitude, hein, parce que j'aime bien découvrir des choses comme ça sans savoir. Et bah, je dois dire, Romy, tu m'as hyper surpris, parce qu'à la moitié du film, j'avais qu'une envie, c'était que ça se finisse, parce qu'en fait, pour moi, c'était extrêmement plombante, l'histoire familiale. Mais ton montage est magnifique, et tu sais cueillir au bon moment, en fait. Et quand on est dans le plus deep comme ça avec toi, ou le plus complété, quoi, quand on sait, là on va dans le mur, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une petite magie dans ton documentaire qui fait qu'on est happé par le mouvement, en fait, que tu crées dedans. Et j'ai trouvé, en fait, la conclusion de ton film. Je vais pas la spoiler, hein, mais la conclusion de ton film est magnifique, parce qu'elle justifie le titre même du film, en fait. Et je trouve ça hyper brillant. Et je suis ressorti avec énormément de questions. Et puis je trouve que les personnages de tes parents, c'est un binôme incroyable, quoi. Ils sont certainement irréconciliables, mais t'as réussi à leur redonner une histoire, tu vois. Moi, je le prends comme une fiction, hein. C'est ta réalité à toi, mais pour moi, j'ai vu une histoire, donc pour moi, c'est comme une fiction. Et j'ai adoré ces personnages-là. J'ai adoré les détester. J'ai adoré les voir évoluer aussi, parce que ce soit ta maman, ton papa, ils évoluent dans le film, puis vraiment de manière assez incroyable aussi pour du côté de ton père. Et et voilà. Et j'ai beaucoup aimé aussi les références aussi qui sont disséminées un petit peu par là. Ça, c'est toujours un petit côté un petit peu. J'ai adoré que ça parle de Basquiat, tu vois, à un moment. Voilà. Et vraiment, voilà. Je trouve ton film hyper hyper touchant. Voilà, en tout cas, bravo pour ça.
Ouais.
C'est incroyable.
Mais merci. Non, mais c'est vrai qu'il y a des sujets, tu sais, qui sont lourds en fait complètement dans le film, mais en même temps, ce qui m'intéressait, c'était de toujours faire un pas de côté, de passer du rire aux larmes, parce que moi j'ai l'impression d'avoir grandi dans cette atmosphère où c'est tellement dramatique, et soudainement au moment où on s'y attend pas, quelque chose jaillit, on en rit, quoi.
Ouais. Et puis il y a les moments musicaux justement, ah oui, qui viennent équilibrer tout ce côté vraiment lourd de l'histoire de tes parents. C'est formidable, et c'est toi qui les a écrits, qui les a chantés, qui les a produits. C'est
là,
encore,
tu fais tout,
encore
tu fais
un truc DIY,
musicale, ouais, tu fais tout, ouais.
C'est ouf.
Exactement. Ouais, ça me tenait vraiment à cœur. C'était la musique qui, j'ai l'impression, a une fonction aussi de transformation très forte. Voilà. Mais qui s'imbrique dans le cinéma aussi, quoi.
On fera écouter un petit extrait, si tu le veux bien, aux éditeurs dans le montage de l'épisode.
Je suis plus la poupée, la petite fille Playmobil. J'arrive à Nouvelle sur la place du dancing. Fini ce conflit qui tourne et qui défile. Fini ce conflit que toi, tu t'imagines. Tout sera plus beau, plus facile. Parfois je me demande si c'était pas une histoire un peu perchée de faire un film sur ses parents séparés.
Quel conseil tu donnerais aux auditeurs ou aux auditrices qui nous écoutent et qui seraient déjà touchés par ta démarche, et qui, quelque part, serait peut-être inspiré de faire un peu pareil, que ce soit à travers un film ou de la musique, une BD, l'illustration, j'en sais rien. Nous, c'est beaucoup les métiers visuels. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui aimerait un peu faire comme toi?
Bah, je pense que je lui donnerais le conseil de faire ce qu'il ressent dans son... Enfin, je parle beaucoup du ventre, mais moi, j'ai toujours l'impression que les choses partent du ventre. quand il y a quelque chose qui en permanence nous revient, qui en permanence tous les matins, on sait qu'il y a ça, quoi. On le porte dans le ventre, un nœud, un truc, une envie de faire quelque chose parce qu'on sait que ça nous ferait du bien, mais qu'on n'ose pas forcément franchir le cap. Je dirais qu'il faut y aller. Et moi, j'avais cette, je sais que j'avais cette comparaison un peu étrange, mais je me suis dit, si je le fais pas pour moi, je le fais pour mes enfants. Alors, je suis pas sûre que j'aurai des enfants un jour. Mais je me dis, je ne pourrai jamais transmettre des choses belles à mes enfants si moi-même, je n'ai pas osé aller au bout de ce qui me meut, en quelque sorte. Et voilà. Et donc, en faisant ça, en me disant que je le fais non pas pour moi, mais aussi pour une descendance potentielle, pour essayer de leur offrir, en tout cas, des valeurs qui sont... Moi, je sais que... le courage, par exemple, c'est une valeur que j'aime et que j'affectionne, les gens courageux, parce que c'est pas facile, à tous les niveaux, aller. Le courage, on peut avoir peur, mais le courage, c'est avoir peur et y aller quand même, en fait. C'est ça. Ouais. C'est juste ne pas rester planté dans le, c'est l'action, quoi, voilà. Et du coup, je me force moi-même, en fait, en permanence à me dire, si ça te traverse, il faut y aller. Et le conseil que je donnerais, c'est si ça nous traverse, quand ça nous traverse, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut actionner, et la suite est très belle. Et en tout cas, c'est de suivre son ventre. Voilà, c'est de suivre ce que son ventre nous dit. Ouais. Au-delà de l'intellect, parce que après on va intellectualiser le truc et on va essayer de le rationaliser à tous les niveaux, mais moi je dirais écoutons dans notre trip, écoutons notre ventre. Ouais, voilà.
Ouais, je dis souvent c'est l'intestin, c'est le second cerveau, quoi. Il nous dit des choses et forcément on l'écoute pas, parce qu'en général quand il réagit c'est qu'il y a un flip derrière, quoi. Et le flip par contre appelle une aventure, appelle quelque chose qui va nous transcender, nous faire grandir. C'est une exploration intérieure, quoi, qui en créativité qui est hyper importante. C'est pas évident. Mais ceux qui font le chemin, en général, ils vont tomber sur des choses inattendues, et quand on sait accueillir ces choses inattendues, voilà, il y a peut-être la magie, elle vient souvent de ça, quoi, c'est sûr.
Exactement.
J'ai envie de te poser une question très concrète aussi. Comment, donc tu as mené ce projet pendant 3-4 ans, quand on compte la post-prod et compagnie, comment tu organisais ton temps? Parce que j'imagine que tu faisais pas que ça pendant, parce que si tu veux, déjà, je pense à moi et je pense aussi aux auditeurs. C'est genre, ok, donc ça me botte et tout. On va faire un truc comme ça, mais à côté de ça, il y en a qui ont peut-être des vies de famille, qui ont une vie professionnelle, qui ont des commandes. Comment faire pour gagner ma vie? Ouais, à la base, le slogan de ce podcast, c'est le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Donc voilà, t'as créé ce film, mais Comment t'as fait parce que voilà, t'as pas fait ça H24 pendant 4 ans.
Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, j'ai eu des périodes pendant 6 mois où je faisais complètement autre chose parce que j'avais travaillé, je me rappelle, dans une boîte de mode, tu vois, où j'étais dans des choses hyper légères. J'allais chercher des... C'était pour des marques de vêtements. Il fallait organiser des événements avec des modèles, des trucs comme ça. Truc qui est pas du tout de mon domaine. Hein. Ça n'avait aucun sens, mais je crois qu'elle voulait pas d'une fille de la com. Mais ça me, souvent, je cassais, en fait, ces périodes par des périodes où je me concentrais sur des choses un peu futiles ou complètement différentes de moi, à l'opposé de moi, juste aussi parce que ce travail d'introspection, il est très intense. Et il y a des moments où, évidemment, on n'en peut plus aussi. On est là et on parle, on malaxe notre propre matière, on a envie de s'en échapper. Donc, moi, je trouvais, des fois, tu vois, j'avais fait à l'époque, je faisais du babysitting, hein. J'étais jeune, j'avais 21, 22 ans. Je faisais du, j'avais pas d'enfants, mais j'imagine que si t'as des enfants, c'est autre chose. Mais je sais que le rapport aux enfants, ça me faisait beaucoup de bien. Parce que, du coup, ça me sortait aussi de ma propre histoire, hein. Puis j'essayais de trouver, j'avais trouvé un job dans une radio, un job, dans une boîte de mode ou quoi, qui faisait que, déjà, un, ça me permettait de gagner de l'argent, mais de deux, ça me coupait de ma propre histoire et donc ça me faisait de l'oxygène en permanence. Après, il y a eu la, en termes de finances, de façon pragmatique, quand on est artiste, j'avoue que il faut gérer soi-même, c'est de l'autogestion permanente, donc il faut, bien sûr, il y a ce côté rationnel, qu'est-ce que tu fais rentrer tous les mois, et en même temps, il y a le côté instinctif, c'est qu'est-ce que tu... Et j'ai pas de recette, parce que moi-même, j'aimerais avoir une recette, ce serait merveilleux, mais j'essaye d'équilibrer au maximum les choses, en me disant, par exemple, là, il y avait des semaines où je faisais des subventions. Voilà, j'étais en mode subvention pendant plusieurs jours, des dossiers de subvention, tac, tac, tac. Et je me mettais en mode que ça, tu vois. Et j'essayais de segmenter mon temps. Mais ce film, j'y ai travaillé 3 ans, mais il y avait des mois où j'étais pas dessus. C'était pas tous les jours. Mmh. Mais c'est, par contre, il faut tenir jusqu'au bout. Ouais.
Et quel retour professionnel tu as eu sur ton film?
Écoute, c'est vraiment génial parce que là, il y a plein de choses qui se passent. Il est sorti donc en salle dans des cinémas d'arrêt d'essai cet été. Ensuite, il y a eu des beaux retours presse, tu vois, voilà, des jolis retours, Le Monde, France Inter, tout ça. Et puis là, il y a la RTBF qui vient de l'acquérir, donc qui va passer fin octobre. C'est une chaîne belge télé. Et puis
RTBF dit.
Comment?
Même moi, je connais.
La RTBF dit.
Ouais, voilà.
Je connais, évidemment.
Et voilà. Et ce qui est cool, c'est que la RTBF, en tout cas, je pense que j'encourage vraiment. Tu vois, la preuve en est, moi, j'ai fait ce film avec franchement peu de moyens, mais il y a eu vraiment des jolies personnes sur le chemin qui sont arrivées, mais c'est à force de combat, en fait. Et la RTBF, j'aurais jamais imaginé. Enfin, tu sais, au début du projet, c'était même pas possible, tu vois. Et pourtant, les choses se font parce que petit à petit, tu mets une pierre, une seconde pierre. Et
ah oui, parce que si tu voilà, si tu n'agis pas, si tu passes pas à l'action, rien peut se passer, quoi, ouais. Forcément, quoi. Et la récompense derrière est toujours intéressante.
Il y a le Canada aussi,
il faut là, se mettre en
tour pour peut-être une sortie au Canada. Donc voilà, les choses se mettent en place petit à petit. Mais le sujet, je pense qu'aujourd'hui, on arrive à une certaine maturité pour s'intéresser à l'histoire. Enfin, il y a en tout cas une volonté, il y a une décomplexion. Je sais pas comment on peut dire ça, mais les gens...
Une parole décomplexée, ouais.
C'est décomplexé de parler de l'intime, en quelque sorte. En tout cas, il y a une bienveillance et une attention portée à l'intime qui est jolie, en fait, en ce moment. Moi, je m'en rends compte maintenant.
Yes. Du coup, pour les auditeurs qui nous écoutent, où pourraient-ils voir le film? Parce qu'on entend que c'est acheté par la Belgique, le Canada. La France est sortie au mois de juin, il me semble. Je pense qu'il y a une nouvelle sortie. Enfin, les auditeurs qui nous écoutent, ils vont être intrigués. Où peut-on voir le film? Parce qu'évidemment, nous, on a eu l'occasion de le voir puisque tu nous as gentiment fait un lien. Mais où peut-on voir le film?
Alors, le film, il est visible à partir du 22 octobre sur la RTBF et sur OVIO. Donc, c'est leur plateforme de VOD.
VOD.
Pendant plusieurs mois, 3 mois. À partir de fin octobre, si vous voulez, on pourra passer. Enfin,
on mettra les liens.
Ouais. Et pour l'instant, en France, j'ai pas de date, mais il y a des ciné-débats qui vont se mettre en place, et ça sera aussi en VOD. Enfin, en fait, je pourrais vous en parler plus dans les semaines à venir. Je vous tiendrai au courant pour ça.
Avec grand
plaisir.
En tout
cas, pour la Belgique, ça c'est net, et pour la France, c'est en cours.
D'accord. Trop bien. Bon, je crois que on arrive à la toute fin. Laurent, ouais. Est-ce que tu as la fameuse boîte à boxons avant de laisser Romy partir?
Je te présente
une petite tradition, Romy.
Voilà, c'est une tradition. C'est la boîte à boxons. Alors en fait, à l'intérieur, il y a des petites questions. Alors d'habitude, on propose à notre invité de la tirer avec sa main innocente, mais là, c'est moi qui vais jouer le rôle de la main innocente puisqu'on est en remote. Alors je vais tirer une question, tu vas me dire stop. Et il y a des questions qui portent sur la créativité, d'autres qui portent sur la transcendance et d'autres qui portent sur le chaos. On va voir ce qui va sortir. C'est le hasard total.
C'était sujet ouais, carrément.
Oui, complètement.
Je remue. Ma main innocente, tu me dis stop. Je peux faire ça toute la journée, pas de problème. C'est bon? On est bon. Hop, la voici, la voilà. Alors, je vais te la lire à haute et intelligible voix. Alors, c'est une question sur la créativité. Quel outil ou objet emportes-tu toujours avec toi, quel que soit le projet?
Un carnet.
Mon ordinateur pour écrire. Ou bien, en ce moment, de plus en plus, j'ai toujours mon petit carnet qui est là.
Ah, si, il est là.
Tout. Voilà. Que ce soit les to-do list, les trucs à pas oublier. En fait, j'ai plein de petits carnets comme ça. Donc oui, le carnet, c'est hyper important pour chaque jour savoir un peu mes drives, quoi. Je les écris la veille en général, mais le matin, j'aime voir. Ouais.
Et après, tu réorganises tout un petit peu sur t'as un logiciel où tu classes un peu toutes tes idées ou
Non, en fait, j'avais essayé avec comment ça s'appelait ce logiciel assez sympa pour trier. C'est pas Monday.
Notion? Non, Notion.
Non, mais mince, j'ai oublié. Mais en fait, je m'en suis jamais sortie avec ce logiciel. En fait, il m'a un peu.
Bah voilà, donc faut l'oublier.
Agacé. Et finalement, je trouve que rien ne vaut un carnet. Je me dis que je préfère, même si c'est mes petits fluos, mes petites notes dans tous les coins du papier. Bah en fait, je m'en sors bien mieux. Et par contre, j'ai créé un truc, c'est sur Excel en Google Drive. Je me fais un planning avec mes priorités et je les surligne, mais je fais mon propre tableau. Comme ça, il n'y a pas de logiciel. Mais et je le classe, par exemple, blooming, c'est ce que j'ai envie de faire, ce qui me rend heureuse. Après, et puis après, il y a mes tâches un peu plus techniques ou administratives en dessous, mais c'est classé par couleur. C'est un peu comme un logiciel, mais je le fais moi-même. Voilà. Mais donc voilà, c'est les deux trucs, c'est le carnet et puis par pour avoir une vision d'ensemble, c'est le Excel Drive sur Drive.
Trop bien. On aura pu aller dans les coulisses de Romy Trajman, dans sa psyché, dans son organisation, dans ses finances, dans ses relations avec ses parents. Merci beaucoup Romy, c'était très très cool de discuter avec toi et d'en savoir plus sur ton histoire et sur ton parcours.
Ouais, merci beaucoup pour le partage. Ouais.
Merci à vous, c'était très riche, merci comme échange, super.
Ah, you're welcome.
Allez tous voir le film dès que vous pourrez. On vous mettra les liens aussi dans les notes de cet épisode pour aller voir la bande-annonce. Et Romy, tu nous fileras les informations. Comme ça, on pourra updater les notes de l'épisode. Comme ça, si quelqu'un écoute cet épisode, je sais pas moi, dans 5 ans, il pourra aller voir ton film et aller voir de quoi il en retourne. Un grand merci, Romy.
Merci beaucoup à vous.
Et au plaisir, à très bientôt. On suivra du coup avec attention tes prochains films aussi. Hein, j'imagine qu'il y en a,
avec plaisir.
Qu'il y en aura d'autres. Voilà, merci beaucoup, ciao.
Merci à
toutes et à tous.
Merci
à tous.
Bisous.
Merci d'avoir écouté Sens Créatif. Si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées.
Vous pouvez aussi partager l'épisode avec vos amis ainsi que sur vos réseaux sociaux.
Un grand merci à Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast.
Retrouvez toutes les infos sur le site www.senscreatif.fr ainsi que sur Instagram @senscreatif-podcast.
Si vous avez des commentaires ou des idées pour des invités, n'hésitez surtout pas à nous laisser un message.
Sur ce, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, restez créatifs et surtout, n'oubliez pas,
Everything is connected!
Mon père m'appelle Sarah, ma mère Romy. Il habite Bruxelles et ça fait 10 ans que je ne l'ai pas vu. J'en ai parlé hier à une amie, Anaïs. On est voisine et elle est documentariste. Alors je dis à mon père, je viens avec une amie et une caméra.
Le divorce, c'est marrant. Ça